Par actualité.
Bonjour, ici Hélène Denis, bienvenue à l'émission Les Paractualités du 19 octobre 2017. Au menu, en manchette, des aidants naturels héritent d'une facture de 2 000 $ en médicaments. La maison Marie-Pierre de Bonaventure au bout du rouleau. Une cycliste de Brossard aide à réaliser un vœu bien spécial. Aussi, en manchette, c'est incroyable, tu peux ressentir ce qu'elle ressent. Et, transport adapté, Uber fait son entrée sur le marché français. En entrevue, je reçois Hélène Gadoury, animatrice intervenante pour les scientifines, qui viendra nous présenter une activité intitulée Braille, et Geneviève Bouchard, coordonnatrice au projet artistique et au financement pour les Muses, Centre des arts de la Seine, pour parler du spectacle Fête, petites écorchures et effets presque spéciaux. Des aidants naturels héritent d'une facture de 2 000 $ en médicaments. C'est un article sur le site de Radio-Canada. À la mort de leur oncle, ils se retrouvent avec 2 000 $ à payer pour des médicaments non couverts par l'assurance maladie. À l'hôpital, ces remèdes ne leur auraient rien coûté. Où est la logique, alors que les aidants naturels font économiser beaucoup d'argent à l'État? Louise Lacasse, avec l'aide de son conjoint, a pris soin de son oncle atteint d'un cancer de la vessie. Le couple s'est occupé de Gilles Lacasse pendant 8 mois. Ils ont aménagé leur maison en fonction de ses besoins. Les Lacasse Dubé sont loin d'être les seuls à s'occuper d'un proche. Selon Statistique Canada, ils sont près de 8 millions au pays à le faire. On a montré que leur travail vaut entre 4 et 10 milliards de dollars pour le Québec, explique Isabelle Van Prevenage, professeure associée au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. C'est aussi bien du temps et beaucoup de compétences. Heureusement, Louise Lacasse et Denis Dubé sont tous les deux infirmiers. Le couple a installé un cathéter épidural pour soulager les intenses douleurs que ressentait le malade. Par ce cathéter, Gilles Lacasse a pu recevoir un mélange d'antidouleurs prescrit par son anesthésiste, Gilles Blaise, de la clinique de la douleur du CHUM. Cette médication a permis au malade de vivre ces derniers mois plus paisiblement. Gilles Lacasse a pu ainsi mourir loin de l'hôpital et près de ceux qu'il aimait. Mais après sa mort, ses proches aidants, devenus héritiers, ont eu toute une surprise. L'ensemble de la perfusion n'était pas remboursé parce qu'une des composantes du mélange analgésique, la clonidine, n'est pas prise en charge par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Certains hôpitaux l'obtiennent aussi sous forme de solution, mais la clonidine n'est pas commercialisée pour le moment au Canada. Gratuite à l'hôpital, la clonidine devient payante si elle est administrée à la maison. De plus, la RAMQ ne rembourse pas les autres médicaments qui font partie de la perfusion. Dans ce cas-ci, la facture grimpe à plus de 2 000 $. Le gouvernement doit mieux soutenir les proches aidants, c'est un texte de Marguerite Blais qui a été ministre responsable des aînés au gouvernement du Québec entre 2007 et 2012, publié dans le journal de Québec.com. En 2007, l'Assemblée nationale du Québec reconnaît la première semaine de novembre comme étant celle des proches aidants. 10 ans plus tard, on constate que quelques avancées ont été réalisées afin de mieux soutenir les proches aidants. Entre autres, par le déploiement des appuis dans les 17 régions du Québec qui proposent des services par le biais de subventions à des organismes aux proches de personnes aînées particulièrement touchées par la maladie d'Alzheimer. Baluchon Alzheimer reçoit une aide substantielle depuis 2007 du gouvernement du Québec afin d'offrir à moindre coût du répit aux proches aidants. Les parents ayant des enfants handicapés ont vu récemment un peu de lumière au bout du tunnel par le biais d'une augmentation d'allocations. Toutefois, cette aide n'est pas suffisante. Des crédits d'impôt existent, ils sont complexes et ne s'appliquent pas à tous. Au Québec, 1,2 million de personnes prodiguent des soins à un proche sans rémunération, soit 20 % de la population. Le Manitoba est la seule province canadienne à avoir légiféré en 2011. Elle a adopté la loi sur la reconnaissance des aidants naturels, c'est déjà un acquis. La reconnaissance d'une semaine nationale des proches aidants n'est pas suffisante. Il faut désormais que nos politiciens bougent. À un an des élections, qui aura l'audace de mettre en place une réelle stratégie afin de soutenir adéquatement tous nos proches aidants? Marguerite Blais. Au bout du fil, Hélène Gadori, animatrice intervenante chez les Scientifines, qui nous parle d'une activité intitulée Braille qui aura lieu à la Bibliothèque Saint-Henri le 21 octobre dans le cadre du mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Bonjour, Madame Gadori.
Oui, bonjour, Hélène.
Alors, présentez-nous d'abord les Scientifines.
Oui, alors nous, les Scientifines, on est un organisme communautaire situé dans Saint-Henri-Petite-Bourgogne. Mm-hmm. On fête d'ailleurs cette année notre 30e anniversaire.
Ah oui?
Oui, on a un événement ce soir, merci beaucoup, de célébration de notre 30e dans Saint-Henri aussi. Mm-hmm. Vous pouvez consulter notre page Facebook pour plus d'informations.
Avec plaisir.
Et puis, nous, on fait de l'aide aux devoirs et des ateliers de sciences avec les jeunes filles de primaire, de la 3e à la 6e année. Puis, on fait aussi de l'accompagnement au niveau de l'exposcience avec aussi les filles du primaire et cette fois-ci les filles du secondaire.
Et j'imagine que vous êtes fine.
Oui, exactement. On est très fine. Tout le monde est bienvenu aux Scientifines. Toutes les filles sont bienvenues aux Scientifines.
Et puis, juste les filles?
Oui. Dans nos locaux, c'est seulement les filles pour notre programme principal. Mais pour l'activité de ce samedi et dans toutes les bibliothèques où on offre des ateliers de sciences, c'est des activités grand public.
D'accord.
Donc, tous les jeunes de 6 à 12 ans qui sont intéressés par la science peuvent y participer. Mm-hmm. On participe aussi souvent à des ateliers dans des services de garde ou au festival de sciences comme le Festival Eureka.
Ah donc, oui,
voilà.
Vous êtes bien occupés.
Oui, on est toujours, on se tient bien occupés.
Alors,
toujours avec des activités scientifiques intéressantes, voilà.
Certainement, et une activité qui pique notre curiosité, c'est l'activité intitulée Braille. Pourquoi et comment avez-vous conçu cette activité?
Oui, en fait, nous, on fonctionne souvent par thématique. Les filles ont à deviner le thème de la semaine. Donc, nos activités régulières du lundi au mercredi sont construites autour d'un thème. Puis on essaye aussi d'avoir toujours des invités, des gens à présenter tout au cours de l'année qui vivent des réalités différentes des filles puis qui peuvent les inspirer. Mm-hmm. Donc, dans ce cadre, cette année-là, on avait une invitée qui était aveugle qui allait venir parler aux filles et faire un atelier avec elles. Donc, on a construit autour de ce thème-là différents ateliers, dont l'atelier de braille que je vais animer en fin de semaine.
Et donc, comment va se dérouler cette activité-là?
Alors, les jeunes sont amenés, bon, au début, je vais faire une introduction sur comment s'est construit ce système-là, parce que c'est super intéressant de voir comment Louis Braille, quelqu'un, a réglé un problème qu'il affrontait dans la vie de tous les jours en construisant un système, un alphabet structuré. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment il a réussi ça. Puis ensuite, les jeunes vont être appelés à eux-mêmes essayer de écrire un message en braille pour leur ami.
Quelle belle idée.
Et puis on a beaucoup de support qui nous a été donné par la maison l'institut en fait l'institut
Nazareth?
De braille, ouais, Nazareth. Ouais. Et puis on a travaillé en collaboration avec eux, puis on a beaucoup de matériel où les jeunes peuvent carrément essayer. C'est comme une lunette, ils peuvent regarder dedans puis avoir l'impression de vivre des problèmes de vision parce qu'il y a différents types de problèmes de vision. Là, être aveugle, c'est totalement à un bout du spectre, mais on parle aussi des différents types de problèmes que tu peux avoir.
De limitations visuelles.
De limitations visuelles,
ouais.
Voilà, de toutes sortes. Puis
alors,
ces gens-là vivent avec ça tous les jours, puis comment ils font pour s'adapter aux situations.
Oh, ben c'est vraiment une activité qui est intéressante. Ça va être la première, le 21 octobre?
Oui, ça va être... en fait, on fait différents ateliers de sciences, nous, dans les bibliothèques. Puis cette fois-ci, l'activité du braille a été choisie parce qu'elle cadrait bien dans le mois de la sensibilisation, je pense.
De l'accessibilité universelle.
Oui. Donc, mais nous, on fait aussi différents ateliers dans différentes bibliothèques sur différents thèmes. Donc, c'est toujours une activité ponctuelle.
Ah, d'accord. Donc, pour l'activité braille, est-ce qu'il y aura d'autres dates de prévues? Parce que c'est pas tout le monde qui peut être disponible le 21 octobre et peut-être qu'il va y avoir foule.
Non, malheureusement, mais on a quand même une grande capacité là, d'accueillir jusqu'à 20 personnes. Oui, donc...
Donc, pour les jeunes de 7 à 77 ans, le public
oui,
de Tintin. Alors, ben merci beaucoup, Hélène Gadouret. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter?
Ben ça me fait plaisir. Sinon, on fait d'autres ateliers de sciences dans d'autres bibliothèques comme Soul Below à la Chine ou Maisonneuve dans les semaines qui viennent. Mm-hmm. Donc, consultez notre page Facebook ou notre site internet scientifine.com pour plus d'informations. Ben, malheureusement, pour le braille, c'est seulement une fois unique, mais on s'attaque à différents sujets de sciences à chaque fois.
Bon, alors pour l'activité braille, je rappelle les coordonnées. 21 octobre, Bibliothèque Saint-Henri au 4707 rue Notre-Dame-Ouest, station de métro Place Saint-Henri, c'est sur la ligne orange.
Oui, exactement. Merci beaucoup.
Merci à vous et puis bonne animation.
Merci.
Au plaisir.
Oh, bonne journée. Au revoir.
Au revoir. La maison Marie-Pierre de Bonaventure au bout du rouleau, c'est une nouvelle sur le site de radiocanada.ca. La maison Marie-Pierre de Bonaventure est toujours dans l'inconnu quant à son avenir. Le centre héberge 8 femmes de la baie des Chaleurs souffrant de déficiences intellectuelles et parfois accompagnées de déficiences physiques. En juillet dernier, cette ressource intermédiaire lançait un cri du cœur devant un manque à gagner qui pourrait l'obliger à fermer ses portes. Des dons de 13 000 $ lui ont tout juste permis de poursuivre ses activités jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que le manque à gagner s'élève à 70 000 $ par année. Le Centre de santé de services de la Gaspésie a été interpellé, mais aurait déjà écrit qu'il considérait le financement adéquat, selon le maire sortant, Roch Audet. Il demande au gouvernement de faire quelque chose pour aider cette maison essentielle pour la région. Le maire rappelle que la maison existe depuis 25 ans et qu'elle a fait ses preuves. Il est hors de question pour lui de demander aux résidents de quitter la région. C'est des résidents de Bonaventure, c'est des gens qui sont attachés à leur milieu. Ils sont près de leur famille, donc ça aurait tout un impact pour le bien-être des personnes. Les dirigeants de la maison Marie-Pierre, qui emploie une douzaine de personnes, disent faire des pieds et des mains pour assurer l'avenir de l'organisme. Ils comptent faire le point sur l'avenir de cette ressource d'aide la semaine prochaine. Le budget de l'organisme est de 360 000 $. Une nouvelle sur Brossard éclair.ca, une cycliste de Brossard aide à réaliser un vœu bien spécial. La résidente de Brossard, Annie Boivin, a contribué à réaliser le rêve d'enfant de la petite Lydia dans le cadre du 48 heures vélo qui se déroulait en septembre au circuit Icar de Mirabel. La petite Lydia est atteinte de sclérose tubéreuse de Bourneville, une maladie génétique caractérisée par le développement de tumeurs bénignes qui peuvent toucher différents organes. Cette dernière souhaite rencontrer les princesses à Walt Disney World. Il y a quelques jours, Lydia a reçu la visite de la Reine des Neiges chez elle. « C'était la première fois que je participais à cet événement », raconte Annie Boivin. On a amassé plus de 10 000 $ pour que le vœu de Lydia se réalise. « C'était le fun de rouler pendant 48 heures en sachant que c'était pour le souhait de la petite, c'était du concret. » L'équipe d'Annie Boivin était composée de 6 collègues. Ils discutent déjà de renouveler l'expérience l'an prochain en formant plusieurs équipes. Plus de 1500 cyclistes se relaient jour et nuit pendant 48 heures sur le circuit Icar à Mirabel. Le but est d'amasser des fonds destinés à la réalisation des vœux d'enfants québécois dont la santé est gravement menacée. Depuis 2007, l'événement a permis d'amasser plus de 9 millions de $. Seulement en 2017, plus de 50 familles et leurs enfants ont vu leurs vœux exaucés. Et je m'entretiens maintenant avec Geneviève Bouchard, coordonnatrice au projet artistique et au financement pour les Muses, Centre des arts de la scène, qui offre une formation professionnelle en théâtre, danse et chant à des artistes vivant une situation de handicap. Les Muses qui célèbrent cette année ses 20 ans, notamment en présentant le spectacle Fête, petites écorchures et effets presque spéciaux à la 5e salle de la Place des arts, mardi et mercredi soir prochain. Bonjour, Madame Bouchard.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Ça va bien. Est-ce qu'il y a du stress, le trac commence à vous animer parce que les premières s'en viennent?
C'est sûr, c'est sûr, mais c'est toujours un moment formidable pour toutes les artistes des Muses qui sont rarement réunis tous ensemble sur la scène. Nos artistes font souvent de la scène, mais c'est que certains artistes d'entre eux qui participent à une production, comme par exemple Joe Jack et John, Des Pieds des Mains, Mywin et Zirtey. Mais là, on a vraiment presque la totalité de nos artistes qui vont se retrouver sur la scène en même temps.
C'est merveilleux. Alors, ça veut dire que c'est un spectacle multidisciplinaire. De quoi il est question dans Fêtes, petites écorchures et effets presque spéciaux?
Bien, avant, il faut comme un peu parler du contexte de création.
Bien, certainement.
En fait, vous venez de le dire, c'est notre spectacle anniversaire, on fête nos 20 ans. Et c'est un spectacle de type spectacle à sketch. Donc, les sketchs ont été créés par nos professeurs, qui sont tous des artistes, et aussi des artistes de l'extérieur des Muses, parce que c'est notre moyen aussi de sensibiliser le monde artistique aux artistes qui vivent une situation de handicap. Mm-hmm. Donc, on est allé chercher la metteur en scène Angela Conrad et la chorégraphe Virginie Brunel, ainsi que le musicien Navet Confi, son acolyte Guido Del Fabro et Benoît Landry. Et avec eux, on a créé des numéros, c'est-à-dire que chaque professeur a créé son propre numéro. Virginie a créé son numéro de danse aussi, Angela son numéro de théâtre, Navet Confi et son groupe aussi ont travaillé un numéro avec une autre de notre équipe, Claudine Rebiard.
Est-ce que ces artistes-là ont apprécié leur expérience?
Oui, bien sûr. C'est un univers tout à fait unique de travailler avec des personnes qui vivent une situation de handicap. Nous, on travaille surtout avec des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Et on a accès à un autre type d'imaginaire qui est vraiment riche pour la création. Et c'est ce qui
ressort.
Oui, des commentaires qu'on a eus de ces artistes-là qui sont issus de l'extérieur des Muses, oui.
Alors donc, que raconte cette histoire?
Mais c'est ça, donc ce
spectacle
de profs et d'artistes de l'extérieur sont chapeautés par Amélie Dumoulin, qui est la directrice artistique du spectacle. Et elle n'a pas voulu imposer un thème pour la création des numéros, mais au final, elle a remarqué qu'en voyant tous ces numéros-là, qu'il y a une idée motrice qui les unit, un fil qui s'est tendu entre chacun des numéros, et c'est le désir d'aller vers l'autre. Parfois, quand on va vers l'autre, c'est comme une fête. Des fois, on utilise des effets presque spéciaux pour se faire remarquer, mais ça parle aussi des petites écorchures qu'on se fait parfois quand ça marche pas, quand on essaie d'aller vers l'autre. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment l'idée du désir d'aller vers l'autre, de la rencontre avec l'autre dans ce spectacle-là.
Et Amélie Dumoulin, pour avoir lu quelques-unes de ses œuvres, elle écrit beaucoup pour la jeunesse, hein? C'est vraiment
oui,
une plume extraordinaire.
Oui, et elle a aussi un background en théâtre. Elle est une des fondatrices de la compagnie Joe Jack et John.
Ah oui.
Et elle a travaillé d'ailleurs pour les Muses. C'est elle qui avait chapeauté le premier spectacle, le deuxième spectacle des Muses, qui était le Cabaret des Muses en 2010.
Est-ce que vous avez assisté à une générale jusqu'à maintenant?
Oui.
Ben, une générale ou une italienne, une représentation en répétition?
Oui, oui, oui. Et je peux vous dire que c'est une beauté sans nom, c'est indescriptible. Moi, à chaque fois que je vois les artistes des Muses se produire sur scène avec d'autres artistes ne vivant pas une situation de handicap, c'est pour moi une très grande réussite, une très grande fierté que l'on doit d'ailleurs à Cindy Schwartz, qui est la directrice des Muses, qui a eu la fabuleuse idée un jour de créer ce centre-là. Mm-hmm. Et donc de voir ces artistes-là sur scène, de voir un véritable talent et de démontrer ce talent-là à tout le public, c'est une grande fierté.
J'imagine que ça fait tomber beaucoup de préjugés.
Et voilà, et voilà. Et voilà.
Alors, vous piquez notre curiosité avec les effets presque spéciaux. Ça a l'air de quoi, des effets presque spéciaux?
Ben, tu sais, c'est un peu une rigolade dans le fond.
Oui,
quand
oui.
On disait ça, c'est que tu sais, on veut pas prétendre qu'on est Hollywood et qu'on fait des gros effets presque spéciaux, mais il y aura quand même
des effets presque
une
spéciaux.
Volonté de mettre la fête là-dedans là et de faire rigoler le public avec certains trucs, ouais.
De nous surprendre.
Oui, voilà.
Alors, vous nous avez donné le goût, Geneviève Bouchard, coordonnatrice au projet artistique et au financement pour les Muses. C'est donc à la 5e salle de la Place des Arts, mardi 24 octobre, mercredi 25 octobre. Et pour avoir des billets, on peut appeler au 514-842-2112, la billetterie de la Place des Arts.
Oui, c'est ça, ou sur le site web directement de la Place des Arts. Je sais que le 24, c'est presque complet, alors faut se dépêcher pour avoir des billets pour le 25.
D'accord. Vous les vendez combien, les billets?
C'est 29 $.
Geneviève Bouchard, merci beaucoup et
merci
bon spectacle.
Vous. Merci.
Bye-bye.
Au revoir.
C'est incroyable, tu peux ressentir ce qu'elle ressent. C'est dans un site internet, acadienouvelle.com, le parasport a changé la vie d'Alissa et Renel Béliveau de Grande Digue au Nouveau-Brunswick. Leur histoire est au cœur du film La troisième roue, le premier documentaire en réalité virtuelle produit par l'Office national du film, l'Office national du film du Canada, l'ONF. L'œuvre de 5 minutes nous plonge dans le quotidien des sœurs Alissa et Renel Béliveau, deux adolescentes atteintes d'atrophie musculaire spinale, de leur vie à la maison jusqu'à une partie de basketball avec leurs camarades de classe. Le documentaire raconte comment l'enseignant d'éducation physique Réal Hébert et la direction de l'école Grande Digue ont mis sur pied un programme de parasport en procurant des fauteuils multisports à tous les élèves pour intégrer les deux sœurs. On a voulu donner un nouveau point de vue sur ce que vivent les personnes atteintes de dystrophie musculaire, indique le réalisateur André Roy. L'équipe de tournage s'est servie d'une caméra munie de 8 lentilles pour filmer à 360 degrés et simuler la présence physique du spectateur dans l'environnement. Parfois, j'ai placé la caméra devant Renel pour montrer comment on les regarde, ces filles-là. À d'autres moments, j'ai placé la caméra en arrière pour nous mettre à la place de celui qui l'accompagne. La troisième roue revisite les codes du documentaire traditionnel. Le travail de cadrage mené par le réalisateur s'efface tandis que la mise en scène prend une plus grande place. Le film amène aussi le spectateur à se mettre à la place de la jeune Renel qui passe ses journées assise dans le fauteuil roulant. Cette expérience d'immersion sensorielle a particulièrement touché la mère de l'adolescente, Lynn Béliveau. C'est incroyable, tu peux ressentir ce qu'elle ressent. Tu as l'impression de rouler avec elle, souffle-t-elle en retirant le casque de réalité virtuelle. Le court-métrage peut être visionné sur la page Facebook de l'ONF. Le film est également diffusé sur le site de l'ONF qui permet au public d'utiliser des casques de réalité virtuelle comme l'HTC Vive ou l'Oculus Rift ou même le Google Cardboard, un masque de réalité virtuelle fonctionnant à l'aide d'un téléphone intelligent. Des séances de visionnage en réalité virtuelle seront également organisées dans le cadre du Festival international du cinéma francophone en Acadie, le FICFA, qui se déroule du 16 au 24 novembre. Une nouvelle sur le site faireface.fr, transport adapté. Vous connaissez les Uber X et autres Uber Pool. Voici un nouveau venu dans la galaxie, Uber Access, lancé mardi dernier. Comme son nom l'indique, son rôle sera de permettre le transport adapté de personnes en situation de handicap. Un espace réservé aux fauteuils roulants et 4 places assises. La flotte de 25 véhicules adaptés d'Uber sillonne Paris et l'approche banlieue depuis ce matin. La célèbre entreprise de transport à la demande a lancé ce nouveau service, Uber Access, en partenariat avec la société de transport adapté JLI. JLI, bien, c'est bien cela. Présent sur l'application comme toutes les autres prestations, le service propose des courses au prix de celles en Uber X, les trajets individuels classiques. Les chauffeurs ont été choisis, assure-t-on, au service communication parmi les mieux notés et tous sont volontaires. Ils ont reçu une formation d'une journée dispensée par JLI. leur a été notamment enseignée l'aide à la personne pour descendre du trottoir ou y monter pour s'installer dans le véhicule si transfert il y a. Mais tout cela prend du temps. Comment garantir au chauffeur une rentabilité sur de telles courses? Hubert répond qu'elle investit pour faire de ce projet un service attractif pour les chauffeurs et bénéfique pour les passagers qui en ont besoin. Hors de question pour la société de communiquer le moindre chiffre sur un dédommagement des chauffeurs accompagnateurs. Il s'agira, dira-t-on, de leur assurer une rentabilité similaire à celle observée sur les autres services. Uber, qui propose déjà ce service à Londres depuis mai 2016, du moins tant que la suspension de sa licence d'exploitation fait l'objet d'un appel, souhaite avoir des retours d'utilisateurs afin de développer et modifier le dispositif. En rafale, après avoir animé la série « Face à la rue », Jean-Marie Lapointe a ressenti le besoin de poursuivre sa réflexion sur l'itinérance. Les sans-abri dérangent et comme nous, il a déjà détourné le regard. Ce n'est plus le cas. Désormais, il leur tend la main et avec toute l'empathie qu'on lui connaît. Dans son livre « Être face à la rue », il se livre sur de nombreux thèmes concernant l'itinérance. En parallèle, il se souvient de moments où il aurait pu lui aussi glisser et se retrouver de ce côté. Il se sait chanceux, on a l'impression qu'il se sent redevable. Le vendredi 20 octobre, demain, Jean-Marie participera à la 28e édition de l'événement de sensibilisation « La nuit des sans-abri ». Rendez-vous au Square Phillips à 18h pour le départ de la marche. Le département Réadaptation en déficience visuelle de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal est à la recherche de personnes non-voyantes pour participer à une cueillette de données sur la prise de médicaments. Dans un premier temps, nous allons discuter des stratégies que vous utilisez actuellement pour lire et accéder aux informations sur les médicaments. Ensuite, nous poursuivrons en vous présentant un prototype d'une application mobile qui pourrait donner accès aux informations à la prise de médicaments sans la vue. Vos commentaires et suggestions seront enregistrés dans le but d'améliorer cette application novatrice. Alors, toute personne intéressée doit communiquer par courriel avec Mme Anne Jarry à l'adresse suivante anne.jarry@umontréal.ca. Un groupe de 5 à 7 personnes est nécessaire pour que cette rencontre ait lieu. Vous recevrez confirmation de la tenue de cette rencontre le 25 octobre prochain. C'est tout pour les paractualités. Merci à mes invités d'aujourd'hui, Hélène Gadoury et Geneviève Bouchard. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et à la technique Mathieu Tessier. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Les paractualités sont de retour sur le site Internet tant que vous voulez. Et en ce qui me concerne, en direct, c'est la semaine prochaine. Au revoir.